Secret d'info, Benoît Colombat, sur France Inter.
Alors nous recevons à présent Henriette Chardac. Vous publiez une enquête intitulée « Le light, c'est du lourd », le scandale de l'aspartame et des édulcorants aux éditions Max Milo, une plongée dans les coulisses de la chimie mondiale. Alors l'aspartame, c'est un édulcorant artificiel qui remplace le sucre dans 6000 produits alimentaires, un faux sucre donc qui est censé notamment lutter contre l'obésité, sauf que ce que vous dites dans votre livre, c'est que non seulement ce faux sucre ne ferait pas maigrir, mais en plus, eh bien, il pourrait avoir un effet sur la santé.
Alors, non seulement sur la santé, mais pour dire les choses très simplement, le light, ça fait grossir. L'aspartame est considéré par certains comme une drogue addictive.
Alors, ce qui est assez passionnant dans votre livre, c'est que vous fouillez les archives et vous remontez aux origines de la mise sur le marché de l'aspartame. Et tout commence en fait dans les années 60 aux États-Unis. C'est là que tout démarre. Hein.
Tout se passe dans la ville de Chicago. Le laboratoire Searle...
C'est le laboratoire qui met le premier sur le marché l'aspartame.
Voilà. Il recherche, si vous voulez, quelque chose de différent pour sucrer. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher et que pour tous les fabricants, un faux sucre qui serait 200 fois plus sucrant et 300 fois moins cher, ce serait rentable.
C'est la martingale.
Voilà. Mais les premiers tests montrent qu'il va y avoir des tumeurs, qu'il va y avoir des problèmes.
C'est ça, parce que ce qui paraît fou, ce que vous expliquez, c'est que dès le début, des scientifiques alertent sur les effets de l'aspartame. Ils font des expériences sur des animaux.
Sur des singes macaques, par exemple. Quand les trois quarts des singes meurent très vite, ou que les examens sont traficotés, parce qu'il faut que la FDA...
La Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'administration américaine qui est chargée de contrôler les aliments et les médicaments.
Oui, et de donner un feu vert. Eh bien, même à l'intérieur de la FDA... Il y a des scientifiques qui vont dire « on ne sait pas, on ne peut pas le mettre sur le marché ».
Et pourtant, l'aspartame va être mis sur le marché.
Voilà. On passe par-dessus les craintes et on va passer après à l'époque liquide, c'est-à-dire les boissons light. Et tout simplement parce qu'il y a un lien entre le politique et la santé.
Et vous le montrez aux États-Unis, c'est-à-dire qu'au moment où il y a le véritable feu vert qui est donné par l'administration américaine, donc on est au début des années 80, Ronald Reagan vient d'être élu président des États-Unis et l'industrie du light peut compter sur vraiment des hommes sûrs à des postes clés. Hein.
Tout à fait, comme Donald Rumsfeld. Mais d'où vient-il ? Eh bien, de ce même laboratoire Searle.
C'est-à-dire que Donald Rumsfeld a été chef de cabinet à la Maison Blanche, secrétaire à la Défense dans les années 70, et puis il devient patron du laboratoire Searle.
Oui, et ensuite, quand il est auprès d'un président américain qui lui demande son avis, il le donne, et l'aspartame va être accepté. C'est vraiment très trouble et troublant, parce que de décade en décade, on est un petit peu étonné de voir, par exemple, que Obama et sa femme vont pousser à l'utilisation des boissons light dans les collèges, les écoles et les lycées.
Vous écrivez « La première falsification fut américaine et elle a contaminé le monde ». C'est vraiment comme ça que ça s'est passé.
Tout à fait, parce qu'on se base sur des faux dossiers qu'on reprend. Et l'EFSA, c'est-à-dire l'organisation européenne, se base sur ces vieilles enquêtes trafiquées. L'industrie, les lobbies, ils essayent de toucher des députés, ils essayent de rencontrer des sénateurs. Et il y a une loi qui n'est jamais passée, c'est-à-dire la taxation des édulcorants à cause du lobby.
Il y a certains parlementaires qui sont montés au créneau pour proposer une taxation de l'aspartame et aussi un avertissement sur certains produits.
Simplement mettre une femme enceinte barrée, par exemple Aline Archimbault s'était battue là-dessus.
Une sénatrice.
Et il y a eu 3 vétos.
Ça n'a rien donné.
Non.
Et alors, il y a une autre journaliste, Marie-Monique Robin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions à travers des livres et des documentaires. Et elle explique, elle, comment les industriels, finalement, fabriquent du doute. C'est-à-dire, dès qu'une étude scientifique pointe un risque sanitaire, eh bien, une autre étude est produite dans la foulée pour dire le contraire. Est-ce que vous faites le même constat ?
Je fais exactement le même constat. Et je pense que ça arrange bien les fabricants d'édulcorants. Parce que tant qu'il y a controverse, on peut vendre à la terre entière, c'est-à-dire 1 milliard de consommateurs, en gros, qui vont tomber malades. sans savoir. C'est ça qui est triste.
Parce on entretient ce doute.
Voilà, on entretient le doute et ce sont ces mêmes forces de fabrication qui ont des satellites médicaux qui vont vendre, qui font de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors, l'aspartame ne fabrique pas Alzheimer, mais c'est un promoteur de maladie. Et c'est ça qui est très difficile. Il faudrait une étude épidémiologique mondiale qui coûte très cher pour être sûr. Et tant qu'on ne la commence pas, on n'a pas de réponse.
Certains médecins ou certains scientifiques vous objectent qu'il n'y a pas de preuves probantes du lien entre la consommation d'aspartame et des conséquences sanitaires ou des conséquences sur la santé. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
Alors, une réponse que m'a fait le professeur et toxicologue Jean-François Narbonne, j'étais stupéfaite. Vous faites médecine et une spécialité. Je vous pose la question, combien d'heures de toxicologie ? 4 heures sur un cursus de parfois 10-12 ans.
Il y a un manque de formation ?
Il y a un manque de formation. Les diabétologues, ils croient ce qu'on leur dit depuis des années. C'est un domaine que j'aimerais voir creusé par les médecins et je pense que ça les intéressera en premier.
Vous citez l'exemple du professeur Narbonne. Dans votre livre, vous dites que ce scientifique français a été contacté par une grande marque de soda, Coca-Cola, comme expert. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, c'est un très bon toxicologue et un très bon expert. Et lui a des doutes. Et il dit pourquoi. Mais c'est très complexe, hein, parce que c'est de la chimie, c'est de la biologie, c'est de la neurologie.
Donc, on le contacte pour avoir son expertise, son avis sur l'effet de l'aspartame.
Hein. Voilà. Et lui, il a une réponse intelligente. Il voudrait mieux prendre de la stevia.
Qui est un autre édulcorant.
Un autre édulcorant.
Plus naturel.
Plus naturel, mais il y a quand même certains risques.
Mais qui est moins rentable que l'aspartame.
Oui, parce qu'il est très cher.
Il coûte 250 euros le kilo. Hein.
Oui, et donc on l'a remercié au sens propre et figuré, voilà.
Comment vous analysez finalement cette
Alors, j'analyse cela comme un grand marché, un échiquier où on jongle avec les milliards, alors qu'il existe un édulcorant naturel, le tagatose, qui est issu du lait.
C'est ça, parce que ça, on l'apprend dans votre livre, c'est qu'en réalité, il y a une alternative naturelle, donc le tagatose, et qui est un produit naturel, qui a priori est sans risque, sauf que ce produit n'appartient à aucun trust. Hein.
Bah, il est fabriqué en Belgique, et il faut le commander. Parce que comme ce n'est pas un médicament, on ne le trouve pas en pharmacie. Et moi, je dis que l'industrie laitière, elle a devant elle un boulevard si elle veut fabriquer un édulcorant qu'on peut cuire. Parce que le problème, c'est que moi, j'ai rencontré des femmes diabétiques qui avaient des problèmes d'élocution et d'autres problèmes, à qui le diabétologue donnait la possibilité de faire des gâteaux à l'aspartame.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des alternatives sans risque qui existent.
Exactement.
Et pourquoi elles ne sont pas développées ?
Parce qu'il n'y a pas de grand trust pour nous faire une publicité alléchante de trouver la vie plus belle je vous donne pas la marque.
Ce qui paraît étonnant, c'est la position des autorités sanitaires, comme l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui juge l'aspartame sans risque, même pour les femmes enceintes. Comment vous l'expliquez ?
Parce que leurs experts ont une double casquette. Voilà.
Pas tous, mais certains.
80%, entre 75% et 80%. Et ils se basent sur des travaux. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle pour moi du pantouflage. Et la minorité...
On passe d'un côté à l'autre, voilà. On passe de celui qui doit surveiller au fabricant à l'industriel.
Voilà, c'est un porte-voix. Il y a sûrement des experts très intègres, mais ils ne font pas le poids. En France, on a quand même une culture de la sécurité. Seulement, puisque dans le monde entier, on dit que l'aspartame est sans danger et qu'il n'y a aucune loi pour interdire cet usage. Donc, on laisse aller et le temps s'écoule. Et vous pouvez remarquer que dans le monde entier, le nombre d'obèses augmente. L'aspartame est un conservateur qu'on va retrouver dans des vaccins et des médicaments dont je donne une liste incroyable. C'est affolant.
Selon vous, il faudrait une autorité indépendante pour faire la lumière sur l'industrie du faux sucre ?
Exactement. Et sur d'autres choses, sur la chimie de l'alimentation. Mais cette organisation n'existe pas.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une prise de conscience véritablement ? Vous écrivez que le problème, c'est qu'il y a une forme de culture chimique qui s'est installée un peu dans toutes les têtes.
C'est-à-dire qu'on veut tous garder la forme comme par magie. Alors c'est agréable de se dire que c'est possible et on croit à la publicité. Mais chaque individu a la possibilité de rendre la vie plus jolie en mangeant des choses qui ne vont pas altérer son cerveau en particulier.
Ça a été difficile, compliqué d'enquêter sur ce sujet?
Très difficile, parce que c'est de l'eau tiède. Il n'y a pas vraiment d'experts qui osent dire ce qu'ils pensent, qui osent vous expliquer en langage simple des formules chimiques très complexes. Et puis j'ai eu quelques menaces aussi, et j'ai eu du mal à trouver un éditeur, et je suis ravie d'en avoir trouvé un.
Merci Henriette Chardac. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le light c'est du lourd, le scandale de l'aspartame et des édulcorants, aux éditions Max Milo.